I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai fait prépa, mais je voyais la prépa comme une fin en soi. Que pour moi, c'était un métier que d'être bon en maths, quoi. Et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je savais, je te jure, qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur. C'était pour intégrer une grande école, une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de l'école française au Maroc et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu bourgeoise.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Karim Duval, bienvenue. Karim, ça me fait plaisir de t'avoir au micro.
Très content d'être là aussi.
Écoute, Karim, j'ai un mal fou à te décrire. Donc, t'es humoriste. Ça, on peut partir de ce principe-là.
J'espère.
Tu fais des blagues.
Au bout de 12 ans, j'espère être reconnu comme tel.
Mais en fait, tu vas chercher, et je trouve que c'est trop bien que tu viennes dans l'histoire de succès parce que tu sais, il y a souvent des gens qui viennent écouter mes invités pour aller chercher de l'inspiration, etc. Tu vois, pour venir écouter des histoires de vie. Et j'ai un peu l'impression que toi, tu te nourris de tout ce que ce pan-là de développement personnel a pu créer, et notamment dans le milieu de l'entreprise, pour finir par en faire ton beurre et ta matière, en fait. Tu t'es inventé des personnages, enfin, c'est complètement fou. En fait, tu n'as pas d'équivalent en France. Je ne sais pas si tu as des équivalents ailleurs dans le monde. S'il y a des...
Je ne sais pas trop, certainement aux États-Unis puisqu'ils inventent tout.
Oui.
Forcément, je suis le fruit d'un courant d'air venu de l'Ouest.
Est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir un copy-comic sur ta gueule?
J'ai forcément copié quelqu'un. Non, ouais, c'est vrai que mais je pense que c'est un peu le propre de chaque artiste, que d'être unique, de faire les choses à sa manière, et j'ai fini par la trouver. Après oui, le développement personnel, c'est un pan de... Enfin, c'est pas le développement personnel qui est bullshit,
non.
Mais c'est encore une fois, dès que ça devient un phénomène de mode, comme tu dis, voilà. Quand j'ai vu le mot réussite, j'ai fait ouh. Et puis après, tu regardes et tu fais non, mais en fait, il y a une façon, il y a plusieurs façons d'en parler. Et donc merci de l'invitation, mais c'est les abus dans tout, et donc tout ce qui est caricature est caricaturable, ou en tout cas c'est de la matière pour un humoriste. Donc j'ai choisi celle-là parce que j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise pendant 7 ans quand même. C'était une expérience vraiment vraiment cool en fait en ce qui me concerne, mais j'en ai les codes, et donc forcément développement personnel, c'est un peu la nouvelle tendance qui est venue se greffer, c'est une nouvelle marque de vernis qui est venue se plaquer sous forme de, d'ailleurs de freelancing.
Exactement.
Au monde de l'entreprise.
D'auto-entrepreneuriat.
C'est un des sujets que j'aime bien croquer, mais qui est une illustration du bullshit ambiant et des abus qu'on fait de notions qui sont chouettes à la base. Enfin, j'ai rien contre le développement personnel. Mais
bah oui.
C'est juste, voilà, c'est juste un marché énorme.
Ouais, est-ce que le capitalisme en fait, quoi, finalement?
C'est ce que le capitalisme en fait, et c'est aussi une espèce de domaine où on peut se construire une légitimité tout seul, par définition, ouais, presque. Et où donc, tous les abus sont possibles. J'ai des certifications et tout, mais bon.
J'ai l'impression que, en plus, tu te mets à jour, parce qu'effectivement, t'as bossé pendant 7 ans dans le salariat, mais c'était l'air de rien il y a longtemps, quoi. C'était justement avant toute cette vague de bullshit job, etc., qu'aujourd'hui on décrit énormément. C'est un sujet qui t'intéresse, en fait.
C'est c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je pense qu'il m'a un peu, déjà, il m'a un peu habité, sans que je le sache à l'époque, parce que j'étais vraiment à fond. Moi, je me suis ému pour des termes. Ah ouais. Acronyme et tout. Ah ouais, je me suis déjà énervé en réunion parce qu'on n'avait pas choisi mon acronyme ou mon terme à moi. Donc j'ai été très premier degré. Et donc, ouais, d'une part, je l'ai vécu. Deuxièmement, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui occupe le tiers de la vie des gens, le travail en général. Et donc c'est une partie importante de la vie et qui est le terrain de, en fait, de travers humain. Quand tu me dis comment j'arrive à me mettre à jour, en fait, mes vidéos, toute proportion gardée, si elles marchent, c'est parce qu'il y a des travers humains derrière, avant tout, et c'est ça qui fait l'angle des vidéos, qui fait qu'elles marchent, qui fait qu'elles sont parlantes. Après, les gens retiennent le vernis qui change, lui, au fil des années, avec des nouveaux concepts, voilà, en ce moment. Même l'agilité, je crois, est déjà dépassée, tu vois.
Oui, c'est trop tard.
Je me mette à la page, comme on disait. Et donc ça c'est juste des lectures, puis traîner sur les réseaux. J'interviens en entreprise aussi de temps en temps, ouais, en essayant de doser comme il faut. Mais je reste à l'écoute de ce qui se dit, des nouveaux termes. Je vois des nouveaux termes apparaître que je connaissais pas. Et donc ça, je viens maquiller mes vidéos avec des éléments de langage. Et vu que je suis tatillon sur les mots, bien sûr, je fais ça bien. Mais une bonne vidéo pour moi, ou un bon sketch, c'est quelque chose qui se nourrit, quelque chose qui relève des travers humains, et ça c'est très inerte, ça change pas beaucoup, oui. Donc en 10 ans ça va pas tant changer que ça.
C'est très universel, finalement.
Aussi, on essaye.
On va reparler un peu de tout ça et de comment tu t'as fait pour venir bosser en entreprise et venir intervenir en entreprise. Ça veut dire qu'il y a des boîtes qui te payent pour venir.
Et ça, pour que je les fouette.
Je trouve ça complètement dingue. Mais c'est vrai, j'allais dire, il y a un vrai côté maso, je crois, de la part de certaines compagnies, quoi, tu vois, qui ont vraiment besoin de ouais, qui ont tellement peu d'autodérision qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne justement là.
Ouais, c'est difficile d'avoir de l'autodérision quand on est la boîte elle-même, parce que c'est difficile. Il y a quand même un équilibre à tenir, quoi. Et c'est vrai que quand c'est dit par le patron ou par quelqu'un à l'intérieur, ça peut casser cet équilibre. L'humoriste a cette légitimité, c'est un peu le l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais il y a une façon de le faire. Et donc, c'est vrai que moi, mes thématiques s'y prêtent bien. Donc, et j'ai le droit et j'ai même le devoir d'aller un peu chatouiller là où ça gratte, là où ça fait mal, parce que voilà, tout le monde n'ose pas. Après, je sais pas si je fais bouger les choses, mais en tout cas, c'est toujours bien de mettre, comme je dis, l'humour, c'est un peu comme le citron qu'on balance sur l'huître.
Ouais.
Comme ça. C'est tort. Et donc l'huître, c'est à la fois beau et moche, c'est une belle image de la vie, l'huître. C'est vivant, exactement. C'est presque mort, c'est vivant. C'est très dans le présent, une huître.
Ouais, et puis même quand tu le fais, quand tu l'avales, si jamais tu l'as pas bien mâché, elle remonte.
Ouais, déjà, il y a donc une deuxième vie. Après, avec les sucs gastriques, je sais pas, il y a un moment... autant le citron, elle peut lutter, mais il y a un moment, le suc gastrique... J'ai jamais vu une huître remonter deux jours après.
Je crois pas,
je
non.
Je suis là.
Coucou,
c'est Fine de Claire. Mais appelle-moi Claire.
Allez. Monsieur a fait de l'esprit. Karim, il y a pas mal de gens qui trouvent, il y a pas mal d'invités en fait qui trouvent que le titre de mon podcast ne marche pas avec ce que je raconte, parce qu'en fait, il y a un côté un peu, justement, il y a un côté un peu bullshit derrière histoire de succès, etc. Tu vois. Est-ce que t'as la sensation d'avoir eu du succès, d'avoir du succès?
Franchement, non.
Ok. Non mais
c'est vrai que j'ai, quand j'ai vu le mot succès, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Succès et réussite, parce que pour moi c'est pas une fin en soi. Enfin, c'est un moteur. Donc oui, on est content d'avoir des retours positifs, bien sûr, sur ce qu'on fait et qui sont juste la preuve que ce qu'on fait existe et a trouvé à rencontrer un public. Donc bien sûr, mais je me gargarise pas de ça et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir sur le moment. Mais c'est le lendemain. Je suis souvent tout seul, enfin quand je me réveille.
En tournée, c'est la solitude. Quoi.
Ouais, non, c'est la solitude depuis longtemps, mais c'est très bien. Mais oui. Mais non, je.
Tu veux dire que tu te réveilles pas avec genre quatre fans, quatre meufs. Non,
quatre, c'est trop. J'ai des principes. Non. Donc, là, le succès en soi, non, c'est Astier qui dit que le succès c'est un accident. Et c'est vrai que c'est un accident. Et donc, je sais pas si j'ai eu cet accident. Mais ouais, je vois des retours positifs à ce que je fais, mais vraiment par rapport aux gens que t'as pu recevoir ici, c'est très très petit, hein. faut déjà en avoir conscience, mais ça me permet d'exercer mon métier, ma passion, d'avoir un public, quel qu'il soit, et donc ça c'est cool, et je sais pas si on doit appeler ça le succès, parce que moi, appeler ça le succès, ou parler de succès ou de réussite, c'est croire qu'on est arrivé, quoi.
Ouais.
Et y a rien de pire, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que t'arrives à quelque chose, il y a quoi après?
Et ça serait quoi, alors?
Le succès, c'est quelque chose d'absolu, mais pour moi, ben non. Moi, pour moi, peut-être que le succès sera de me dire, si j'ai pas changé d'envie d'ici là, mais c'est de me dire, d'un point de vue purement professionnel.
Ouais.
C'est de me dire, voilà, sur mon lit de mort, je suis encore artiste, quoi.
Yes.
Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que, ben, voilà, c'est ce qui... Moi, honnêtement, un projet n'est là que pour en nourrir un autre, ouvrir des portes, créer des rencontres, me comprendre mieux et essayer d'être de plus en plus moi. Enfin, c'est une espèce de recherche éternelle, permanente, le travail d'un humoriste. Se comprendre, voilà. J'ai eu deux spectacles. Mon premier, Melting Pot, parlait beaucoup de mes origines, mais c'était une espèce de coquille, de vitrine pour pas trop parler de moi.
Ouais.
Y, déjà, je me révèle un peu plus. Et puis, on vit à l'ère des podcasts, on peut parler un peu plus de ça. Mmh. Et donc, bah, j'espère aller de plus en plus vers une forme de vérité.
Puis t'as 40 ans, c'est le moment où j'arrive.
Ouais, voilà.
D'aller vers l'introspection. Dans la deuxième partie du jeu.
J'y vais, là, je suis en maillot, là. J'ai mis un orteil dans l'eau, elle est pas mauvaise. C'est froid, non, elle est à 17, mais.
Ouais. On est en mars encore, hein, calme-nous. Ouais. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans?
Quand j'avais 7-8 ans, j'ai cette image de moi à 7-8 ans. C'est marrant. Alors que je faisais le singe sur un divan.
Ok.
J'avais une coupe au bol et les cheveux très raides. On m'appelait Mireille Mathieu. Ou Jackie Chan au Maroc. J'étais un petit garçon à la fois timide, très timide à l'école. À chaque fois c'était bon élève, mais juste. Exprime-toi, quoi. Soit plus, soit moins timide, soit moins réservé. Et à la maison, j'étais vraiment le rigolo de service, quoi. J'étais vraiment le petit dernier qui déjà observait, imitait toutes les personnes qui passaient à la maison. Et puis, notre maison, c'était un espèce de carrefour culturel et ethnique,
ouais.
Au Maroc.
Ouais.
J'étais un gamin qui jouait, qui se contentait de pas grand-chose.
T'as grandi à Fès, hein, c'est
ouais, ça? Oui, grandi à Fès, ouais. Au Maroc, ouais. Mm. Et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu aimant et plutôt aisé. J'allais à l'école française au Maroc, mais j'ai vraiment grandi dans les deux cultures, française et marocaine. C'est important de le souligner. Mmh. J'étais pas expat, quoi.
Ouais.
J'étais vraiment à l'école, bon, on était français et marocain, plutôt issu de l'élite, c'est vrai.
Ouais.
L'école française est assez élitiste et il y avait quelques enfants d'expat. Et puis une branche de ma famille qui est berbère, qui vient de la campagne, mais vraiment qui vient du fin fond, oui, de la campagne. Bon, depuis, il y a eu un exode rural, etc. Mais à l'époque, ouais, j'arrivais à la maison et ça, des fois il y a des gens qui venaient chez nous, des bergers, quoi. Donc je passais des enfants de médecins, d'avocats, de trucs.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Un oncle berger. J'avais même un oncle très vieux. Il était aveugle et troubadour. Et un jour, il était revenu super content. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je suis super content, j'ai passé une semaine à l'hôpital, tout frais payé. Il s'était fait opérer de la cataracte. Il avait mis l'ambiance, il avait ce qu'on appelle un bendé, c'est les tam-tam sur lesquels on tape. Ouais. Et il nous mettait l'ambiance comme ça, c'était vraiment quelqu'un purement analphabète. J'ai vraiment grandi dans cette espèce de grand écart à l'échelle d'une journée. Et j'étais une espèce d'électron libre comme ça au milieu de toutes ces facettes de la société.
Ouais. Marocaine. Et en fait, comment t'as l'impression que ça t'a nourri, toi, justement, d'être dans ce grand écart?
Bah, ça donne une sensibilité, surtout sur le plan social, quoi. C'est vrai qu'on voit vraiment les deux milieux, même si on baigne plutôt dans, alors pas le luxe, hein, mais l'aisance, quoi.
Ouais. Enfin,
besoin de rien, la chance de passer d'avoir des vacances, de partir en voyage et tout, et puis voir aussi une forme de pauvreté assez extrême parfois, hein. Ça forcément ça crée une sensibilité, je pense. Ouais, on a envie quand même de ça crée de l'empathie, ça crée, donc ça m'a, je pense pas que ça m'ait quitté. Et c'est vrai qu'il y a toujours une ambivalence dans ce que je fais,
ouais,
de parler, dépeindre une espèce d'élite à laquelle j'ai appartenu et j'appartiens encore un peu, hein. L'élite des cols blancs, comme on dit, c'est un peu désuet de dire ça.
Ouais, il y a plus grand monde qui dit ça.
Ouais. Et puis mais toujours avec cette espèce de cynisme de, mais bon, vu de l'œil de tout le monde. Et c'est vrai que mes vidéos, souvent on dit ouais, c'est vachement élitiste tes trucs ou c'est niche. Mais en fait, il y a vraiment deux lectures. C'est vraiment aussi mes vidéos, c'est vraiment une façon de dire aux personnes qui ne sont pas de ce milieu-là, mais on appelle ce milieu-là l'élite et la réussite justement. Mmh. Mais alors qu'elle est tout à fait risible, et même si vous ne comprenez pas les termes, c'est justement ça qui est marrant.
Bah oui.
C'est le fait que les mecs pensent que tout ça est évident, c'est l'entre-soi, et puis que en fait c'est souvent des termes pour désigner pas grand-chose.
Je me demandais, pour revenir un peu au petit garçon timide que t'étais à l'école, qu'est-ce qui fait en fait que tu t'exprimais pas plus à l'école alors que à la maison t'étais en mode je suis le clown, quoi.
Je sais pas, bah déjà j'ai jamais été, en fait ça me donne une idée de spectacle, mais aujourd'hui je suis pas quelqu'un de très très manuel, tu vois, toujours du mal avec le
faire les choses,
vers les choses concrètes, quoi. Et donc aller vers les enfants qui s'agitaient, déjà en maternelle ça me faisait peur, quoi. Ils jouaient à la bagarre et tout, moi je crois que j'ai passé le premier trimestre de maternelle collé à la salle sous le préau. Et j'allais jamais jouer.
Donc, au mur, c'est ça.
Peur de Walda. Donc, j'étais toujours impressionné par l'agitation. Et même aujourd'hui, quand il y a trop d'agitation, moi, je veux pas être le mec qui va la ramener dans un groupe de potes. Je suis clairement pas le plus drôle, quoi. Et quand il y a de l'agitation, il y a un moment où vite je me fatigue, où j'ai peur. Donc, je vais me mettre en retrait.
Du côté introverti, quoi.
Du côté introverti, ou juste pas aimer l'agitation. Et donc, c'était peut-être ça. Et du coup, j'ai besoin de tranquillité pour m'affirmer doucement.
Ok.
Arriver un peu à marée basse après la bataille.
Ah oui, d'être dans un environnement que tu connais, quoi.
Oui, et puis il faut que je m'habitue à l'environnement avant de m'exprimer.
Ok.
Ouais, non, il y a 15 000 raisons d'être, je sais pas, timide. Non, je sais pas. Je sais pas, ça peut être la quête d'une vie que de comprendre pourquoi il y avait cette phrase sur le bulletin. Non, et puis j'avais un côté bon élève aussi.
Ouais.
L'envie de bien faire, c'est vrai que... L'envie de bien faire, et donc forcément, pour moi, s'exprimer, c'était faire du bruit, donc...
Déranger.
Donc déranger, être mal vu, etc. Pourtant, j'ai pas vraiment été éduqué en ce sens, quoi. Enfin, on m'a jamais dit, soit le bon élève, premier de la classe. Mais si, il y a quand même beaucoup de réussite, on va dire, dans ma famille. Réussite académique, en tout cas,
ouais.
Dans ma famille, au sens que je n'aime pas trop, mais... Mais ouais, donc c'était
comment
important.
Ça, dans le sens que t'aimes pas trop.
Non, mais voilà, appeler ça la réussite, mais voilà.
Ah beaucoup oui.
De gens qui ont, entre guillemets, réussi,
oui.
De belles études, des parcours prestigieux, enfin, ça a étudié, quoi.
Ouais.
C'est une famille, quand même, d'intello. Et donc forcément, il y a cette culture du bon élève, et le bon élève est sage.
Tu fais quoi comme étude après?
Après, bah, j'ai eu mon bac S au Maroc, et après, j'étais faire des prépa. Maths-sup à Versailles, au lycée Sainte-Geneviève.
Waouh! T'es passé du Maroc
à... Du Maroc à Sainte-Geneviève. Alors, c'est la première France que j'ai vue, c'est quand même la France jésuite.
Waouh!
Assez catho. Mais alors, vraiment, moi, on peut le voir comme une caricature, mais dire la France catho, c'est pas vrai. Déjà, c'est vraiment un lycée qui ouvre ses portes à tout le monde et toute catégorie sociale. Donc c'est payant, mais c'est vraiment selon le quotient familial et selon les moyens qu'on a. On peut ne rien payer du tout, très peu. C'est vraiment une belle c'était, en tout cas, aujourd'hui je sais pas, mais une belle institution, vraiment une grande diversité sociale, d'origine, super enseignement, on faisait du sport, enfin vraiment c'était la prépa de luxe, quoi.
Ouais.
Avec une espèce de parc à la Harry Potter, c'est des vieux bâtiments, des grandes pelouses, et donc une grande tolérance, ouverture à toute forme de culte, ouverture d'esprit. Donc vraiment, c'était chouette, mais c'était un changement de monde de fou, quoi.
Bah,
sachant que c'est une bulle en soi.
Oui.
Donc je suis arrivé du Maroc, où en effet je voyais un petit peu de tout le monde, un truc comme où tu te retrouves enfermé avec que des tronches, des bons élèves, la moitié de la classe avait un an d'avance, tu vois.
Ah ouais.
Voire deux.
Normal.
Et puis tu te retrouves, tu deviens un peu normal, quoi. Quand t'es bon élève, tu atterris dans ça et tu deviens un peu quelqu'un de lambda, quoi.
Oui.
Quand tu deviens quelqu'un de lambda, ouais. Bah là, pour le coup, j'étais un peu moins introverti. Parce que
okay.
Là, c'est plus le bon élève.
Ah, yes.
Et donc, peut-être que là, j'étais un peu plus. Déjà un peu plus un ouf par rapport à. Il était vraiment. Mais là, j'ai vu des gens introvertis, mais vraiment, ils avaient pas de couleur, hein. Vraiment. Les mecs, c'était des podcasts, quoi. Quand ils te parlaient, tu les voyais pas, ouais. Vraiment des gens très, très, très invisibles. Très fort dans la timidité, quoi.
Et t'as la sensation que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit ok, c'est quand même étonnant et ça me ressemble pas tout à fait, ou...
Bah ça, je pense, ouais, inconsciemment, tu vois, en te le disant, ça a dû commencer à germer. En tout cas, c'est ça aide à s'affirmer un peu. Mais déjà, quand j'étais petit, je te dis, je faisais le pitre, hein. Et puis j'ai eu des petits pics quand même, où j'étais, après avec mon groupe de potes, j'étais très à l'aise, et je faisais de la musique en groupe, ouais, le fait de faire de la guitare, hein, à l'adolescence,
yes,
à sortir de ma coquille et à me donner en spectacle déjà.
Tu faisais ça?
Je faisais ça, ouais. J'ai appris, je fais de la guitare à partir de 12-13 ans. Et puis j'ai joué dans des groupes d'ulti, on jouait mal avec des guitares désaccordées, mais je chantais mal et tout, mais oui, ça poussait la chansonnette déjà. Et Nirvana, tout ça.
Bah normal.
J'ai mué sur Nirvana, et donc on sait pas trop si on a mué quand on chante Nirvana, quoi. Quand on essaie d'imiter Kurt Cobain.
Ah bah...
On sait pas, a-t-il mué?
Pour moi, ça va.
Il a pas laissé le temps de savoir.
T'as des artistes dans ta famille?
Reconnu en tant que tel, non.
Non, ou mais... t'as grandi dans un milieu artistique?
Mais ouais, mon père a un côté artiste assez fantasque, assez un original, quoi. Puis musicien, oui, il joue de la guitare. Il joue tout le temps de la guitare, comme il respire, mais vraiment, c'est-à-dire...
Ah oui, il a tout le temps de guitare.
On avait une musique de fond, rien de virtuose, mais toujours les mêmes trucs, et donc c'était une espèce de... Okay. Comme un écran de veille, mais en son.
Ils faisaient quoi comme métier, tes parents? Ou ils font quoi?
Ils étaient, ils sont à la retraite, mais ils étaient prof d'anglais, mon père, et prof de SVT.
Ok.
Ma mère, mais je crois qu'ils ont, enfin, ils ont pas fait que ça. Il y avait des moments, des périodes où ils ont pas bossé, et ils ont essayé d'autres choses, avec plus ou moins de succès, un peu d'entrepreneuriat, un peu de... mais ouais, c'est vrai que j'ai pas l'image de parents qui allaient au boulot, beaucoup, ouais. Quoi. Ouais, non, ils ont bossé un peu en pointillé. Mais bon, ils ont réussi à arriver à la retraite.
Bah,
un âge vraiment, vraiment prématuré, je crois.
Ah ouais?
Alors, on parle du débat sur les retraites, non? Parce que quand t'as été prof, je crois que t'as eu 3 enfants, tu as droit quand même, ouais, à partir avant. Et c'est bien. C'est vrai que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour ces choses-là. Et, donc, ouais, non, des fils de prof, ouais. Donc, peut-être, okay, aussi, cette envie de bien faire aussi, bien, peut-être.
Oui. Sans aucun doute.
Ouais.
Mais donc, toi, donc, tu...
Mes études en France, oui. Ouais. Et après, j'ai intégré...
T'as intégré Centrale, donc, qui est une grande école d'ingénieurs. Et en fait, à l'époque, c'est quoi... Comment tu vois ton parcours à l'époque? Est-ce que tu te dis, ok, bah, je vais rentrer dans le système et je vais bouffer de A à Z et, bah, et premier degré, comme tu dis, t'énerver sur des acronymes, quoi.
Bah, je le voyais pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait ça parce que j'ai fait prépa, mais je voyais la prépa comme une fin en soi. C'est-à-dire que,
ah oui.
Pour moi, c'était un métier que d'être bon en maths, quoi. Et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je te jure qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur.
Mais comment
c'est
ça?
Pour intégrer une grande école, une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de l'école française au Maroc et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu bourgeoise, dont je faisais pas partie, mais qui était, voilà.
Qui faisait partie de ton
quotidien. Qui faisait partie de mon quotidien, quoi. Mais tout, on a une promo de ouf, hein, nous, il y a que des. Dans la promo, il y a que des gens qui. Des médecins, des avocats, des notaires, des entrepreneurs, parfois héritiers, parfois.
Ouais.
Mais ouais. Et donc j'allais avec l'idée de voilà de réussite, voilà. C'est ça qu'aujourd'hui tout ça n'a plus vraiment de sens pour moi parce que voilà on avait une espèce d'idée de réussir, parvenir. Et donc je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur la prépa. Pour moi c'était pour essayer d'avoir la meilleure école possible, voilà avoir des bonnes notes, pas avoir des mauvaises notes comme on racontait de manière très romancée
ouais.
sur la prépa, etc. Avoir un bon classement, mais ça sert à rien ça en soi. Et donc quand j'ai intégré l'école centrale, bah, j'étais content d'avoir centrale, quoi. Vraiment, c'était le prestige. J'ai été nourri à ça beaucoup.
Bah oui.
Pas par ma famille, par une espèce de.
Bah, déjà par la prépa, j'imagine.
Par la prépa, ouais. Ouais la prépa, après, tu rentres.
Ça te forme à aller chercher le plus haut possible.
Ginette, quoi. Ginette, la Sainte-Geneviève, c'est pour le coup très élitiste. C'est-à-dire que, on t'a dit, il y a les grandes écoles et il y a les autres, quoi. Et donc ça c'est pas génial comme esprit.
Mais on t'apprend pas le sens. On t'apprend pas le. Tiens, en fait.
Ben si, mais si tu veux, on a dû avoir des conférences de gens qui sont venus nous parler, mais c'est rentré par une oreille et ouais. sorti de l'autre. Moi, j'ai qu'une envie, c'était retourner travailler et préparer mon oral de maths du lendemain. On est scolaire. Généralement, les bons élèves sont pas très mûrs, enfin, souvent. Ouais. Ou alors si, mais alors c'est des élèves un peu plus rebelles, généralement. Moi, j'étais docile et bon élève et scolaire, en fait. J'étais scolaire, j'étais pas une tronche, hein, loin s'en faut. Mais j'en ai vu des tronches, hein,
ouais. Ouais.
Des mecs comme ça qui ont l'air de rien, fichent rien, et puis ils ont l'intuition, ils ont le truc. C'est beau, hein, d'ailleurs. Et moi, j'étais juste scolaire, donc j'étais pas à ma place, au fond. Je forçais.
Tu forçais. Mais t'as forcé longtemps quand même.
Ah, j'ai forcé longtemps. Après, j'ai continué à forcer. J'ai pris sur moi en école. J'étais pas à ma place, c'est pareil. Je me forçais à aller en cours. Mais voilà, il fallait réussir. Donc j'ai survécu pendant 3 ans. 4 ans, parce que j'ai fait une année de césure qui m'a fait beaucoup de bien.
Ok. Ce que
j'ai retenu de ces années à l'école centrale, qui est par ailleurs une super école, qui me soutient d'ailleurs vachement aujourd'hui. Plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'ingénieur. Parce que je faisais pas du tout honneur à l'école. Ce que j'ai retenu, c'est mes voyages. Les voyages que m'a permis de faire l'école. J'ai fait un stage en Chine la première année, qui m'a métamorphosé à 20 ans. Je suis revenu, j'étais pas le même, quoi.
Ça t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année en Chine pour toi?
Non, pas 2 mois, juste.
Ah, 2 mois!
Bah, je suis parti vraiment quasi seul.
Ouais.
Seul et. J'étais dans un labo franco-chinois, mais bon, en fait, tu sentais que c'était juste un truc pour mettre en place un partenariat. Tu faisais lire des articles, puis tu arrivais à 10h, tu repartais à 4h, et le reste du temps, tu vivais Pékin, quoi.
Okay.
Et j'avais aucune notion, quasiment aucune notion de chinois. J'avais ma méthode à 6000, et puis j'étais là, à Pékin. Alors j'ai visité des monuments, mais surtout le délire, c'était d'être en Chine, en plein été, plein cagnard, et vivre des journées. Banal en fait, pendant 2 mois, mais des fois vraiment ça me pesait. La solitude, l'éloignement, et puis vraiment t'arrives dans un pays où il n'y a pas un trait de caractère qui te parle. Il y a quelques chiffres de temps en temps, les numéros de bus, mais si tu veux, ils vont pas faire l'effort de traduire en anglais. Quoi. Donc, je suis arrivé, j'avais quelques notions de la méthode à 6000, que j'avais révisé dans l'avion, un bon élève. Et tu te rends compte que ton capital linguistique, tu l'épuises très très vite dans le hall de la gare ou de l'aéroport. Et après,
c'est fini.
Après, c'est fini. Il faut approfondir un peu. Et j'ai survécu, mais non, mais ça c'est génial. Ça t'oblige à aller vers les gens, à t'exprimer coûte que coûte. Ça forge un sens de la volonté de parvenir à quelque chose. Mais là, le quelque chose en question, c'est prendre le bon bus, aller partir dans le bon sens, manger ce que tu veux, ce que tu souhaites, ou ne pas manger ce que surtout tu ne veux pas parce que tu le vois.
Oui.
Ça peut atterrir dans mon assiette, ça, si je m'exprime pas. Donc je me suis retrouvé, ouais, des fois, embarqué dans des aventures au 14e étage d'un immeuble par des gens qui viennent m'aider, mais qui n'ont pas compris ce que je voulais. Et donc, tu te retrouves au milieu de gens que tu connais pas, ou à discuter avec des gens assis sur le trottoir, mais discuter en gestes, en cris d'animaux, en quelques mots de dictionnaire.
Et ça t'a changé?
Ça m'a changé. Et après, j'ai fait une année de césure où j'ai été à Barcelone 6 mois, où j'ai travaillé là-bas, et en espagnol et tout ça. Et c'est pareil, tu reviens vachement plus dégourdi, tu sais un peu plus ce que tu veux. Donc, Donc j'ai un peu plus saisi ce que c'était que travailler en entreprise. Mais c'est pareil, j'étais un peu à côté de la plaque, je pense, au fond. Même si, non, après, quand j'ai bossé, j'étais assez impliqué. Mais j'ai compris que, assez vite, que j'avais beau bosser les matières scientifiques, etc. J'étais pas fait pour ça, quoi. Mmh. C'est-à-dire que j'étais fait pour cette espèce de tiers ou de moitié dans laquelle atterrissent beaucoup de gens qui font ces études-là, commerce ou ingénieur, d'ailleurs. Espèce de sphère de technocrate. C'est pas de la science, la pseudo-science. Ouais. C'est pas des sciences molles, c'est des sciences floues. Et encore non, parce que les maths floues, je crois que c'est une branche des maths qui existe. Mais espèce de truc comme ça où en fait c'est du bon sens maquillé en concept, quoi. Et au final, les concepts sont là pour te juste légitimer tout ton parcours que tu aurais pu éviter, en fait. Parce que je pense qu'en faisant l'école de la vie, les gens qui s'en sortiraient beaucoup mieux que toi et t'oses pas te l'avouer. Il y a une grosse partie de la population des cadres, et c'est un peu ma cible, et c'est là que j'arrive à chatouiller et faire mal. C'est là. C'est les gens qui sont dans cette espèce de soupe. Les gens qui sont très techniques, voilà, qui vont te dimensionner des centrales nucléaires, que tu veux. Tu luttes pas, quoi. Souvent, depuis petit, ils comprennent la physique, ils connaissent. Et ça les passionne. Mais quand t'as pas vraiment été attiré par ça, et que t'as fini quand même, au final, avec le même papier qu'eux, tu finis pas au même endroit.
Ouais, c'est clair.
Et donc là, tu commences à réaliser que, ouais, peut-être que tu t'es trompé de voie, ou en tout cas, c'est une voie ouais, où il n'y a pas vraiment de place. Ouais, c'est une voie où tu survis, où tu bricoles, quoi. Tu te bidouilles.
Je ne sais pas si tu as suivi le travail de Céline Marty, qui est une philosophe.
Son nom me dit quelque chose, mais j'avoue, je ne sais
pas. Qui a écrit sur tous les bullshit jobs et qui a une vraie idée de, en fait, supprimons-les tous. Et en fait, ça va créer d'autres sphères, d'autres trucs.
Ouais, ouais.
Et surtout, souvent, ils sont malheureux, quoi. Ces gens qui travaillent dans ces...
C'est ça, mais en fait, c'est difficile après, parce qu'on se moque de ces bullshit jobs, mais au final, et c'est souvent des personnes qui ont de l'autodérision.
Hein. Oui.
Et c'est vrai que très souvent, elles se rendent compte que si elles décident, bah, je parlais avec un mec comme ça hier. Si elles décident de déserter un jour le travail, ça va pas du tout changer quoi que ce soit. Mais toujours est-il qu'on arrive à trouver une utilité à ces jobs-là. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils servent une complexité qui a été créée de toutes pièces, mais progressivement, sans qu'on s'en rende compte, qui a accompagné la digitalisation, l'ère numérique, etc., a créé des jobs, des concepts, parce qu'on a un peu schématiquement éloigné l'outil productif vers des pays moins chers. Et donc, bah, petit à petit, on s'est mis à gérer des concepts ou des numéros plutôt que des gens qu'on allait voir à l'atelier à l'époque. Quoi.
Ouais.
Bah, c'est encore le cas, hein. Il y a encore des usines en France, hein, il faut pas non plus. Mais ouais, globalement, ça, on a créé de la mousse, beaucoup de mousse. Et les systèmes d'information créent. Enfin, voilà, ça semble simplifier la vie quand on appuie sur une appli et que nous sert ce qu'on veut. Mais derrière, il y a des usines à gaz, des heures de réunion.
Oh là là.
Pas possible pour justement arriver à ça et puis après il y a des normes et donc c'est là que naissent ces bullshit jobs, mais qui à la base sont toujours rattachés à un besoin concret, quoi. Et je pense que la vraie question, c'est est-ce que tous ces besoins sont légitimes, quoi. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces applis, je sais pas, mais les applis, j'en sais rien, une appli de running qui t'envoie toutes les minutes.
Et puis il y en a 152 en plus.
Ouais, il y en a 152. Pourquoi tu vas toi aussi de ta petite appli, pourquoi tu vas de ton jeu vidéo, toutes ces choses-là qui nourrissent l'industrie du jeu vidéo, le métaverse. Pourquoi ?
Le métaverse.
Pourquoi
le métaverse ? Je sais pas. Et là, en même temps, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, tu vois. Pourquoi le métaverse ?
Ouais,
d'un autre côté, je suis là, fais bien
parce,
gaffe.
Parce que t'as vu Second Life déjà.
Pas glissé.
Et tu sais que c'était un échec et je vois pas du tout. Moi, j'arrive pas à voir la différence, quoi.
Non, moi
je vois pas en quoi. Le seul argument, c'est Facebook a mis des milliards dessus. Mais bon, il en a perdu pour l'instant.
Oui.
Et je m'en réjouis.
C'est très bien.
Je m'en réjouis.
Et en même temps,
vieux con que je suis.
Et en même temps, t'as une grosse partie de ton business qui repose aussi sur Facebook.
Oui, oui. Et bien sûr, je faisais cette réflexion ce matin. Je me disais, mais purée, en fait. Oui et non. Parce que moi, la scène, c'est la scène avant tout.
C'est la scène ton business.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui.
Ça te permet de te faire connaître.
La scène dépend aujourd'hui des réseaux sociaux. Moi, si j'en étais pas dépendant, je te jure, j'y serais pas, quoi. Vraiment, d'ailleurs, je ne me sers que de mes comptes pro.
Pro.
Enfin, en cas des fins pro, je dévoile très peu de choses sur ma vie privée. Et enfin rien d'ailleurs, ou alors quand je partage une photo de vacances, il y a toujours un lien avec voilà mon humour, ce que je fais, mon actu, mais on est dépendant de ces trucs là ouais, c'est vrai. Et donc Peut-être qu'en moquant de ça, je scie la branche sur laquelle je suis assis, mais c'est pas grave.
Oui, c'est important.
Je me sacrifie pour le bien de l'humanité.
Non, et puis c'est important d'avoir un peu de recul là-dessus, quoi. Moi, ouais, je suis un peu dans la même position, tu vois, où je déteste ces plateformes, et d'un autre côté, je me dis, si elles sont pas là, c'est compliqué. Et en fait, d'un autre côté, si j'arrêtais de nourrir ce truc, peut-être en fait que tout simplement ça s'arrêterait, quoi. Enfin, moi et plein d'autres gens, quoi. Tu vois.
Non, et puis ça crée de belles choses, ça crée de beaux projets, de belles rencontres. Mais
oui, c'est sûr.
Mais peut-être qu'elles se seraient créées autrement.
Oui.
Mais non, c'est vrai que ça crée une multitude de. Même dans la sphère audiovisuelle, il y a trop de choses qui sortent, trop de séries. Même ça, tu vois, on pourrait le remettre en cause. Et moi-même qui participe à quelques projets comme ça, je veux bien le remettre en cause. Pourquoi y aller moi aussi de. Là, ça s'est un peu calmé, mais à un moment, chaque humoriste avait sa série, quoi.
Oui.
Un truc venu des États-Unis encore. Mais c'était la grande mode, quoi. Je fais ma série. C'est devenu presque une expression toute faite. Je travaille sur ma série, là. Ça s'est vite calmé, ça. Ça a duré 2-3 ans. Et j'entends beaucoup moins d'humoristes qui me disent je travaille sur ma série.
Il y a Netflix à.
Ouais.
Et puis toutes les plateformes ont un peu coupé le robinet.
Ils ont coupé le robinet, donc il n'y a plus de ma série.
Plus d'argent.
Moi, j'ai pas eu le temps de le dire parce que je suis toujours un peu en retard.
Et en fait, ce qui était intéressant, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton spectacle, c'est qu'effectivement, t'as tout un fil rouge où tu racontes et tu fais ton spectacle, en fait, ton show, mais il y a aussi beaucoup de moments où tu vas questionner les gens. Et la fois où je suis venu te voir, il y avait un banquier qui s'était transformé en fromager, crémier fromager.
Ouais, au Théâtre Libre.
Au Théâtre Libre. Et j'avais trouvé ça. En fait, je sais pas déjà comment t'as fait pour le trouver, parce que t'as une salle.
Le flair, je commence à être physionomiste.
Tu le vois, il dit tu fais quoi dans la vie?
Et il a pas lâché l'info tout de suite. Hein.
Oui,
pourtant, j'ai demandé. Hein. Et à la fin, dans une espèce de silence malaisant, il a fait allez, ok, c'est bon. Ça, c'est des techniques de torture. Ça s'appelle la technique de la dernière goutte. Tu laisses le mec t'interroge dans le silence. Et à un moment, il va lâcher l'info.
Je connais bien ça. Après, c'est long.
J'ai gagné
quand on fait un podcast. Mais. Et en fait. Pour moi, ça prouve vraiment ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire à un moment donné, ce mec est banquier. En plus, il s'est fait lourder, je crois. Il raconte qu'il s'est fait virer et que la banque lui a filé un gros chèque en partant.
Oui. Donc il s'est arrangé pour se faire lourder, quoi.
Oui.
Il y a des gens que le lourdage arrange. Hein.
Toujours.
On n'est pas logé à la même enseigne que des gens qui sont vraiment victimes d'un plan social.
Hein. Oui, c'est clair. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que t'es dans, toi aussi dans ton, et j'imagine que ça fait partie de ton public, tu vois, d'avoir des gens qui ont fait ce mouvement-là, tu vois, qui sont revenus vers
un
métier manuel, quoi.
Bien sûr, je les attire. Je les attire parce que je dépeins ce phénomène. Mais j'ai pas écrit dans le but d'être justement exclusif, hein. Mais forcément, oui, on fait rire les gens qui s'identifient à nous en première ligne. Et donc j'en ai beaucoup des gens en reconversion. Qui l'avouent pas parce qu'après ils ont pas envie de prendre la parole, mais qui viennent me voir après. Il y en a qui me disent aussi merci, tu as déclenché une réflexion, tu as nourri ma réflexion et tu m'as encouragé à. Il y en a qui m'ont dit je suis venu te voir deux fois et à chaque fois j'ai changé de métier.
Bah, génial. Et en même temps, pourquoi on fait pas plus ça, quoi, tu vois?
Oui, bah après, pareil, encore une fois, les phénomènes de mode, faut faire attention, quoi. Pourquoi changer pour changer aussi? Il y a un moment où on change parce que l'autre a changé, parce que, alors c'est pas ça, ça donne envie de quitter un truc qui nous met mal à l'aise, mais. Après, on n'est pas obligé non plus.
Ah, ouais.
Mais oui, bien sûr.
Tu sais qu'en Islande, le gouvernement, il incite à se reconvertir. Ils sont que 300 000, si tu veux. Donc ils sont obligés à un moment donné de tourner, de faire des métiers.
À trois, on rebat les cartes.
Bah, et en fait.
Toi, le boucher. Banquier, pas le banquier, ailier droit.
Il n'y a pas de CDI, par exemple, tu vois.
D'accord.
Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée, c'est juste.
Pourtant, l'Islande est un pays à durée indéterminée.
Oui, c'est jusqu'au moment où il va y avoir un volcan
PDI.
Qui va se réveiller.
Ouais, c'est une espèce de. L'Islande, je vois vraiment comme une espèce de constante. C'est une image hein, qu'on se fait de l'Islande. J'ai eu la chance d'aller en Islande, d'ailleurs, quand j'étais ingé.
Ah ouais.
Je voyageais beaucoup, mais j'étais vraiment bien loti. J'avais fait du. J'ai même été embarqué dans un petit avion, un petit coucou au-dessus des volcans.
Oh là là.
Tu vas faire le truc de la pesanteur et tout.
Ah ouais?
Ah putain, je suis un flippé de ça, il m'avait embarqué là-dedans. C'était le client, tu pouvais pas dire non. Et très froidement, tu sais. Avec une froideur apparente en tout cas à nos yeux.
Oui.
On avait fait une bonne journée de travail. Et you know, I'm the president of the aerodrome of Reykjavik. Want to come to my plane? Il fait oh yes. Et les autres, ouais, carrément, les autres, ils aimaient bien le saut à l'élastique et tout ça. Moi, j'aimais pas ça. Je me retrouvais embarqué dans ça, c'était cool.
Sortie de zone de confort, j'ai envie de te dire.
Ouais, sortie de zone de confort, bah là, storytelling derrière TEDx, direct. TEDx aussi, ça n'existe plus, ça, si, ça existe encore.
Ouais, si.
On les voit moins, s'il y en a.
Bah, il y en a toujours. Hein.
C'est moins prestigieux. J'en ai fait un.
Bravo.
J'y suis allé de mon petit TED aussi. Enfin, TEDx.
TEDx, calme-toi.
Sa clé. Ouais.
T'as TEDx.
Ouais. Et puis t'as la ville derrière. Avec beaucoup de traits d'union parfois. TEDx ici tiré.
Les
tiré Moulineau.
Ouais, c'est sûr. Pour revenir à ton parcours, en fait, donc tu rentres dans un job d'ingénieur. C'est quoi le moment où tu te dis ok, je suis plus bien, je suis plus à ma place, il faut que je fasse un truc? Parce que si je me trompe pas, tu as été pendant très longtemps humoriste tout en étant ingénieur à côté. C'est-à-dire que tu as lancé ta carrière comme un side job, c'est un side hustle, comme ils disent.
Comme un hobby au début, comme un hobby. Et pendant longtemps, vraiment, je disais clairement aux gens autour de moi, qu'on soit clair, c'est un hobby, ok? On fait ça, je vais jouer mon sketch à la fête de fin d'année, au barbecue d'un tel. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça.
Tu te mentais à toi-même quand tu disais ça.
Je me mentais à moi-même, mais dès le départ, je pense. Ouais. Dès le départ même, je te dis, peut-être pas la prépa, parce que vraiment, il y avait une fin, la prépa, c'était réussir.
Oui.
C'est l'objectif débile, mais il y avait... Mais après, vraiment, c'était là, oui, 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 mais oula.
Donc après, c'est ça toute la vie.
C'est ça toute la vie. Et puis, tu te retrouves avec des gens qui te parlent, qui maîtrisent ce qu'ils disent, et tu peux plus dire que tu maîtrises pas. Et donc, bon, après, j'étais pas non plus un imposteur ou un mec teubé, j'arrivais quand même à comprendre. Mais globalement, c'est ce truc, t'es pas à ta place, quoi. Et je le sentais, mais au début, non. Au début, tu pars avec une bonne résolution, et puis petit à petit, elle s'effrite, et puis il y a un quotidien qui s'installe. Puis une fois l'euphorie de la nouveauté du job, de découvrir ce que c'est que gagner sa vie, son passé, tu te dis, là, ça commence à devenir long. Tu te dis, là, c'est l'hiver.
Winter is coming.
Winter is coming. It's bien, bien here. Et pourtant, on était sur la Côte d'Azur.
T'étais à Sophie Antipolis, c'est ça?
J'étais à Sophie Antipolis, ouais.
Plutôt classe.
C'était cool. Ouais. Non, vraiment, plus des collègues sympas et tout. Mais c'était quoi ta question?
C'était plutôt, en fait, comment t'as fait pour petit à petit te dire, OK, il est temps? Est-ce que t'as eu un déclic à un moment donné? Est-ce que t'as eu une réunion de trop?
Non, franchement, il n'y a rien eu de... Non. Et les déclics, pour ma part, qui était vraiment bien loti, je te dis, j'avais vraiment les bons trucs, j'avais les bons postes, j'avais des primes. J'étais toujours dans les petits papiers, au courant des décisions avant les autres, parce que élitisme.
Mais
parce que corporatisme.
T'as beau avoir tout ça, et tu peux aussi avoir envie de crever à l'intérieur, quoi.
Ouais, mais en fait,
parce que
j'avais une vie quand même assez équilibrée. Okay. Mais j'ai vraiment été nourri par le plaisir de découvrir la scène, quoi, et de faire rire à partir de blagues que j'avais écrites et que j'avais peaufinées d'une semaine sur l'autre. Mais tiens, regarde, tu agis sur une blague, c'est super. T'as une nouvelle idée des sketchs, tu peux un peu te raconter avec plus ou moins de pudeur, avec beaucoup de pudeur même, au départ. Mais ça me plaisait. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé, au bout de 3 ans, à me dire, allez, franchis le pas. Mais c'était pas en réaction. Alors bien sûr, après, on peut toujours dire, oui, c'est parce que je m'ennuyais, etc. Mais
storytelling, tu peux
raconter. Storytelling, ouais. Mais non, le ce que j'aime raconter, c'est que tu vois à quoi ça ressemble, le Sophie Antipolis. Il n'y a que des arbres et des entreprises, avec des ingénieurs dedans.
Oh, putain.
Et donc je dis, moi, je peux pas raconter des histoires à la François-Xavier de Maison qui te dit... J'étais fiscaliste à New York, et puis à un moment, je regarde par la fenêtre et je vois un avion qui rentre dans une tour, puis un deuxième. Voilà, je dis, à quoi tire la vie? J'arrête tout, je me lance. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai vu un mec faire du running dans une forêt de cyprès.
Un mec de trop.
Un sanglier s'est pris un arbre. Enfin, rien d'excitant à ça, quoi. Si tu es plus pépère, tu meurs. Et je pense que c'est justement le confort, comme je dis souvent, ou la tranquillité qui m'a fait peur. Parce que c'est des cursus où tu fais pas vraiment d'efforts. Bien sûr, il y a la prépa, on te présente ça comme une guerre qui te donne accès à justement un cercle de privilégiés, et c'est vrai en plus. Mais on oublie toutes les autres guerres des gens au quotidien qui se battent pour avoir une place, et aux portes de ça ou pas, ou loin de ces sphères-là. Mais les infirmiers, enfin, c'est la prépa tout le temps, quoi. Et la prépa, pas à pas, prépa genre t'as 4 en maths, hein. C'est prêt, c'est non, t'as...
Oui, t'as
des escarres à soigner, des personnes âgées à changer, des gens qui font des crises d'épilepsie, des gens qui meurent, des manques de moyens. Et ça, ça c'est sous-payé, c'est gentiment applaudi pendant 2 mois, et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai fait ça en parallèle pendant 3 ans, et puis après je me suis dit, non, mais là, si tu veux te donner la chance d'aller plus loin dans ça, parce que c'est vraiment ce que tu aimes, parce que j'en arrivais au point de d'espérer ne pas être envoyé au bout du monde dans des pays ou des îles paradisiaques, hein, vraiment, pour pouvoir participer à tel festival. Dans des bleds paumés, hein, avec beaucoup de traits d'union. Même les TEDx, ils y vont pas. Les TEDW, peut-être, mais pas. La version low cost du TEDx irait peut-être là-bas. FedEx.
Oh!
PEDX. Et donc là, je me suis dit, allez, vas-y, donne-toi une chance. Et je me suis lancé à temps plein.
T'as l'impression, pendant ces 3 ans, d'avoir ingénieré ton humour, tu vois? Est-ce que t'as appliqué ce que t'as appris d'ingénieur et peut-être ton cerveau? Je sais pas à quel point ton cerveau a été aussi habitué, à quel point.
Si, certainement. En plus, j'ai été... J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Claude Crespin, qui vient du cirque, et qui très vite m'a fait comprendre que c'était un métier, quoi, et que vraiment il y avait une mécanique d'écriture, de mise en scène, de jeu d'acteur. Donc très vite, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui me dit ça. C'est pas juste t'arrives et spontanément tu parles, tu fais des blagues et c'est jamais les mêmes. Non, c'est toujours les mêmes. Parce à l'échelle d'un spectacle.
À l'époque, il n'y avait pas encore de podcast, il n'y avait pas encore de vidéos YouTube où il y avait des humoristes qui parlaient.
Non, il y avait
parlaient,
quelqu'un du spectacle qui venait vraiment du monde du cirque et qui lui mettait en scène d'habitude des clowns, des acrobates, des jongleurs.
Comment t'as trouvé ce mec?
C'était le compagnon de ma prof de théâtre.
Ok.
Qui animait cet atelier purement amateur et hobby. mais qui très vite est devenu ma carotte, ma soupape. Enfin, même pas ma soupape, parce que j'étais pas mal, je suis à côté, mais c'est juste ma bulle d'oxygène, de nouveauté, où je rencontrais des gens autres que de mon milieu aussi.
Ouais.
Parce que Sophie Antipolis, c'est assez fermé, et même si j'aime beaucoup les gens qui y sont, bah, ça fait du bien de rencontrer des gens. Voilà, quand tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je suis magasinier, je suis groom dans un palace à Monaco, je suis concierge ou autre. Hein,
et
ça fait du bien. Ou un stit, ou infirmière... Ça fait du bien de se reconnecter un petit peu à la... Ça me faisait beaucoup de bien.
Et alors, comment ça se passe? C'est quoi, en fait, au bout de 3 ans, c'est quoi le premier truc que t'as fait pour te dire, ok, maintenant, je suis humoriste à plein temps et j'y vais?
Le premier truc que j'ai fait, c'est de me retrouver comme un débile chez moi, avec rien, me réveiller le matin et me dire, on fait quoi? Y a rien, là. C'est-à-dire que t'as pas de date. T'as quelques dates, ouais, t'en as 10. T'as un spectacle qui vaut ce qu'il vaut, qui finalement est pas si ouf que ça. Parce qu'il est encore...
T'avais déjà une heure quand même?
Ouais, j'avais une heure. Ouais. Mais maintenant, si tu me demandes de prendre la même décision aujourd'hui sur la base de cette heure-là, jamais j'y vais. Mais jamais. C'était mauvais.
Oui, mais tu connais
ce
vieux truc. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait.
Voilà. Mais c'est certainement le cas aujourd'hui de ce que je fais. Mais en tout cas, j'y croyais à ce moment-là et j'avais des rires. Et je n'avais des rires que parce que j'y croyais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'essayais de faire les mêmes blagues, mais je les saborderais parce que j'y croirais pas. Mais je les faisais avec l'œil qui brillait, quoi. Et donc j'y croyais, et j'avais ça, et il y avait un peu de réseaux sociaux. Non, je prenais mon téléphone et j'appelais les salles. Vraiment, je tapais Lyon, je zoomais sur Google Maps, et tous les bleds, je prenais le numéro de la mairie ou de l'association du comité des fêtes, j'appelais, bonjour, je suis humoriste, j'ai un spectacle... Ah, d'accord, merci. Et j'appelais comme ça, et parfois, t'avais quelqu'un qui disait, oui, je vous passe le numéro d'un tel qui est en charge des événements du feu d'artifice du 14 juillet et du spectacle de fin d'année. Et parfois, je tombais sur des programmateurs qui m'envoyaient bouler. En plus, c'était à l'époque de On demande qu'à en rire, l'émission de Ruquier, dont j'étais pas... J'ai fini par y participer et me faire déglinguer.
T'avais pas trop le choix, je crois, à une époque, hein, vraiment.
Oui, pas le choix, mais j'avais pas du tout la solidité pour le faire. Et donc, souvent, t'appelais, ils disaient, vous faites mon demande carrière, non? Bon, désolé, on va prendre un tel parce que lui, il marche en ce moment. Donc, c'est très politique, hein, les choix, parfois, dans les salles.
Ouais.
Et puis, parfois, il y a des gens qui me donnaient ma chance. Et puis, à Lyon, il y a un vivier de café-théâtre, qui sont des lieux qui sont vraiment, qui poussent pour le coup les gens qui sont pas connus et qui leur donnent la place, qui parfois vont sacrifier des recettes, hein, parce qu'ils pourraient très bien faire venir telle star roder son spectacle. Ils pourraient faire que ça, mais ils font pas que ça. Et ils donnent leur chance. Il y a des artistes qui sont locaux, qui n'ont jamais été médiatisés, et qui font leur vie comme ça. Et parce qu'ils arrivent à se renouveler, à créer des pièces à petit succès, mais ils sont là, quoi. Et donc j'ai quand même toujours été dans cette sphère-là aussi. Et petit à petit, les cafés-théâtres te font confiance. Pas toujours, hein, pas tout de suite. Au début, ils disent « Ouais, j'aime bien, mais bon, c'est pas prêt. Allez, je te donne une demi-heure. Tiens, viens partager la scène avec un tel. » Et puis un jour, il y a un déclic qui se fait, t'as une heure, fais confiance, tu joues là, ça marche, un festival d'Avignon, une rencontre, deux, petit article, j'en sais rien. Et puis après, Internet arrive et petit à petit, tu
trouves. C'est Internet, t'as l'impression qu'il t'a...
Ouais, mais vraiment, alors toute proportion gardée, parce que moi, vraiment, on est en train de parler de mon parcours comme si j'avais...
Alors, désolé, mais tu vas faire l'Olympia.
Oui, je vais faire l'Olympia.
Excuse-moi.
Je vais faire l'Olympia. J'ai choisi de le faire.
Je le redis. C'est vraiment pour le verbaliser.
Oui, c'est vrai. Non, pour le verbaliser, mais c'est pour dire aussi que c'est très sincèrement un kiff qu'on s'offre avec ma prod. De dire, on fait l'Olympia pour la dernière. Enfin, c'est-à-dire que l'Olympia, au fond, entre guillemets, n'importe qui peut le faire.
Oui.
Il suffit de payer. Quoi. Donc, oui. On prend le risque financier de faire l'Olympia.
C'est ça.
On va rien gagner du tout, mais c'est pas grave, on le fait parce que c'est l'Olympia. Il y en a qui naturellement vont commencer à l'Olympia. Je crois que c'est Alex Lutz qui commence par l'Olympia. Tu vois, quand il fait ses spectacles, il rôde à l'Olympia. Moi, je rôde pas au niveau zéro de l'altitude. Je rôde sous le niveau de la mer. Moi, quand je rôde des spectacles, c'est quoi? Il rôde à l'Olympia. Là où t'as des gens qui font, je sais pas, Marina Rollman, elle fait 8 Olympia, plein comme ça de fête, quoi. Ça. Moi, alors, ça va être plein, je pense. En tout cas, oui. ça se remplit bien, mais c'est quand même un petit challenge, quoi. Mais oui, je fais l'Olympia, j'assume, et
oui.
J'en suis fier. Mais c'est pour dire que mais toute proportion gardée, quand tu me dis il y a eu un avant et après Internet, Internet a créé des frémissements qui, en effet, me permettent de m'ouvrir des portes, notamment de belles salles. Mais tout ça est vraiment à échelle artisanale. Mais oui, Internet a changé la donne. Et bien sûr, moi, j'ai toujours un temps de retard. Donc j'ai mis du temps à me mettre à faire des vidéos. J'ai fait des vidéos de cuisine en 2016.
Tu racontais tout à l'heure.
Je te disais ça tout à l'heure. Qui ont fait un petit pchit, mais qui, mine de rien, m'ont ouvert des portes.
Pourquoi t'as fait des vidéos de cuisine à l'époque?
Parce qu'à l'époque, j'avais un spectacle qui s'appelait Melting Pot, oui. Où je parlais beaucoup de mes origines. Donc la cuisine, ça va de soi. Et j'aime beaucoup cuisiner aussi. C'est vraiment un truc qui me fait beaucoup de bien. Et que je fais assez naturellement. Et il n'y avait pas vraiment... Il y avait les tutos de Jérôme Niel, là.
C'était pas,
ouais, ça, c'est pas vraiment de la cuisine. Mais lui, il cartonnait. Et moi, je faisais des vraies recettes où vraiment, tu la gardes, tu peux vraiment apprendre à faire le plat avec plein de petites vannes, avec, tu sais, avec des cuts YouTube,
ouais.
des années 2010.
Bah oui. Après, il y a eu les recettes pompettes, mais c'est pareil.
Oui, les recettes pompettes de poulpe.
C'était ça. Pas du tout des vraies recettes.
Mais il y avait un vrai concept. Moi, c'était juste des recettes avec des sketchs. Donc ça n'a jamais décollé, mais j'ai commencé à faire ça. Donc ça m'a donné envie de faire des vidéos. Et après j'ai arrêté de jouer Melting Pot et c'est là que j'ai commencé à je suis revenu à Lyon. Enfin, j'ai toujours habité à Lyon, mais j'ai arrêté d'aller à Paris pour jouer mon spectacle et essayer de percer, ce qui voulait déjà plus rien dire. Ça veut rien dire percer aujourd'hui.
Mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est, tu dis ça comme si.
Mais percer, c'était lié aux médias, à la télé en fait.
C'est ça.
Et la télé n'a plus ce pouvoir vraiment.
Oui, mais il faut quand même être à Paris. Tu vois, pour moi, il y a un truc.
De moins en moins quand même. Hein.
Alors, je crois qu'à un moment donné, tu peux, comme tu dis, rester très longtemps un artiste local, entre guillemets,
ouais.
C'est pas péjoratif, hein,
ouais,
en
ouais,
fait,
ouais.
Et de vivre,
non,
comme tu dis.
Là, oui.
Et en fait, à un moment donné...
Tu crées beaucoup plus de rencontres.
Voilà, c'est ça.
Puis je l'ai fait, je le fais encore. Mais en tout cas, il y a un côté très dichotomique. Quand tu viens de province, je vais à Paris. Et j'y vais pas pour chômer, quoi. J'y vais pas pour enfiler des perles, quoi, tu vois. Et donc, il y a un moment, ça, c'est très fatigant. Ça n'a rien de naturel. En tout cas, surtout quand t'es pas très paillette comme moi.
Ouais.
Et donc, à un moment, je suis revenu à Lyon et je me suis recentré sur qu'est-ce que t'as fait toutes ces années. Finalement, t'as un peu reproduit cette espèce de schéma carriériste de j'ai envie de percer, quoi. Un peu comme avant, tu voulais gravir les échelons dans ta boîte. Et donc, c'était une espèce de reconversion professionnelle au sein de mon métier. Je vais refaire les choses un peu. On va repartir de la base. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, t'as plaqué ton boulot il y a 5 ans. Et si tu racontais ça? Et puis là, on était en 2017 et les phénomènes de reconversion professionnelle déjà étaient beaucoup plus présentes dans les médias.
Alors, donc, beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais c'était déjà commencé à en parler. Il y avait déjà des coworking. Je me suis mis dans un coworking très, très Y dans l'esprit. Et c'était un vivier. Je me suis fait des potes, j'ai rencontré des gens, je leur faisais lire des textes. Et eux-mêmes, il n'y avait que des freelances, des gens assez avec une certaine conscience écologique. Ou nomade, ou les deux, et donc une grosse incohérence. Et j'ai commencé à découvrir cette sphère-là, et le dénominateur commun, c'était la génération Y. Mmh. C'est là que je me suis dit, je vais dépeindre ça, et à travers un spectacle, et à travers des vidéos. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos qui s'appelaient Le Point sur les Y. J'ai dû faire une petite dizaine de vidéos comme ça, où je croquais la génération Y, mais sous forme de vidéos facecam, comme ça. Et après, j'ai commencé. Un jour, j'ai incarné un personnage, le slip chinois, le fondateur du slip chinois. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo.
Je crois pas.
C'est un contre-pied du slip français.
Je l'avais, j'avais la ref.
Mais c'est un contre-pied, c'est pas une parodie. Et
cette vidéo a fait
un beau buzz pour le coup, par rapport à ma base de fans de l'époque. Et c'est ça qui a un peu déclenché une visibilité plus grosse que celle que j'avais, qui était en fait celle du tout venant avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un peu de bouche à oreille, l'illusion que les gens te connaissaient, mais surtout, c'était on fait quoi ce soir ? On va au point virgule, parce que c'est bien. On n'a rien à faire lundi, on se fait un café-théâtre. Et donc, t'avais vraiment le tout venant. Et donc, t'étais très, très tributaire des vacances. Je blindais pendant les vacances, et puis le jour de la rentrée, il n'y avait plus personne, quoi. Donc, je fanfaronnais pendant les vacances, puis après je parlais, je communiquais moins, impression.
La salle est pleine.
C'est vrai, tu suis, ouais, la salle.
Aujourd'hui, ça a été.
Ouais, c'est ça. Tu suis la tendance, tout simplement. Alors que quand t'as Internet, etc., il y a un côté, ouais, plus buzz où tu te construis ton public. Mais j'ai toujours été juste sur la jauge, sur la taille de ce que je.
Ouais.
J'ai jamais voulu jouer dans des salles trop grosses, trop vite. Parfois, je le fais, je m'en mords les doigts. Mais généralement, je joue toujours dans des salles à ma portée. Et puis finalement, ça crée de la frustration de ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place.
Yes.
Et puis voilà, c'est pour ça que voilà, on arrive à faire l'Olympia parce qu'on n'en fait qu'un. Parce que j'ai pas non plus fait 5 dates semaine au Théâtre Libre avant ou à l'Européen. J'en ai fait une par semaine. Et donc,
ouais.
Donc voilà, mais tout ça, au final, on retient que des bons moments de salles chaleureuses, pleines. Et quand elles ne sont pas pleines, c'est pas grave. En tout cas, tu te sens vraiment dans une forme de justesse, ouais, tout le temps. Et ça, j'y tiens.
Et donc, t'as, effectivement, dans ce spectacle qui s'appelle Y, tu racontes que toi-même... Alors certes, t'es un vieux Y, on pourrait dire
ouais,
ça.
Oui, je l'ai eu à l'oral.
T'es un Y à la fin. Je l'ai eu à l'oral. Et donc, tu racontes un petit peu comment la société a fini par se transformer aussi, comment une forme de société, comment il y a des tas et des tas de boîtes qui se sont créées autour. En fait, j'avais envie de me demander, c'est quoi le... En fait, qu'est-ce qui t'incite à avoir créé tous ces personnages après ? Parce que pour moi, c'est parce que t'as créé plein de personnages. Tu parles du slip chinois.
Ouais. Chinois, j'en ai créé plein. J'ai compté, ce qui est peu en fait, en 4-5 ans, j'ai fait 35 vidéos. C'est pas mal. Mais c'est ouais. Il y a des fois où je fais rien pendant 2-3 mois. Puis des fois, en 2 semaines, je vais t'en sortir 2. C'est mon max, quoi. Mais oui, qu'est-ce qui fait que j'ai créé ces personnages ?
Bah ouais.
Bah, c'est un peu la... Déjà, j'ai une créativité qui est à l'échelle du jour. Et donc, je peux pas toujours changer mon spectacle. Il y a un moment, quand il est écrit, il joue. Et donc, cette créativité, elle a besoin de s'exprimer quelque part. Internet, c'est génial pour ça. Parce que t'es pas obligé d'aller sur scène pour... Donc, c'est un échappatoire. Et donc, ces idées-là, quand t'as des idées débiles, tu peux leur donner vie très facilement. Tu t'écris un texte, paf, tu te filmes, tu montes et c'est fini. Et alors, c'est toujours le même personnage, finalement. C'est toujours un mec, un peu comme ça. Ouais, bonjour, il a toujours un nom un peu débile en lien avec ce qu'il fait. Et après, en gros, c'est toujours un espèce de gendre idéal qui incarne la réussite, qui a un langage assez policé, mais qui dit des horreurs, qui n'en est absolument pas conscient. Quoi. C'est toujours un bullshitter, en fait. Ce que j'appelle le bullshitting. Et donc, il y a eu ce besoin d'incarner ça une fois, parce que voilà, à l'époque, on parlait beaucoup de Startup Nation. C'était 2017, hein, tu vois.
Bah oui.
Mon projet, tout ça.
C'est notre projet.
Notre projet.
Pas mon projet.
Notre projet.
Tellement nous.
Ouais, tu vois, maintenant, je dis mon projet.
Oui, c'est
tellement,
ça.
Tellement,
ça a bien
tellement
changé
on connaît la fin de l'histoire. Dis-je un jour où il va s'exprimer à 13h devant toute la France. Enfin, son miroir, pardon. J'ai eu besoin de créer ça parce que sur scène je m'exprime directement aux gens, j'ai pas du tout la même énergie sur scène, j'ai une façon très généreuse, je parle avec les mains, je vais vers les gens, etc. Mais cette froideur là, je l'aime bien, et c'est aussi moi, ce côté timide peut-être, mais est très très bon élève et que je sais bien incarner parce que j'en suis le pur produit de ce système.
Ouais.
Et donc l'incarner pour m'en moquer, ou en tout cas pour faire prendre du recul par rapport à cette forme de réussite qui pour moi n'a pas de sens déjà le terme, oui. et puis voilà, qu'il faut relativiser, je trouvais ça super, donc j'en ai fait un, et puis après j'en ai fait un autre sur cet engouement pour les neurosciences, que j'appelais les neurosciences. C'est un mec qui étudie le cerveau pour savoir pourquoi on est con, quoi. Et cela dit, ça donnait. Il y a un mec qui écrit le bug humain, qui vraiment s'intéresse à la question. Mais les neurosciences. Et puis après, j'ai créé d'autres start-upers, Bidal, hein, une parodie du gars qui a affronté Feed, tu sais, les poudres.
Ouais.
C'est affreux, ça ne doit pas exister.
Anthony Bourbon,
oui,
là,
oui. Qui fait peur. Et donc voilà, et donc de fil en aiguille, à quelques exceptions près de personnages autres qui ont des accents ou des turbans de Qatari, j'ai toujours incarné ce personnage-là. C'est un peu devenu ma mascotte. Et je peux lui faire dire tout ce que je veux. Et je pense que je vais continuer un petit peu. Je vais peut-être un peu changer de format aussi. Je sais pas, je vais voir. En changeant de spectacle, peut-être le moment de pivoter, comme on dit.
De pivoter. T'as l'impression de te battre encore contre cette envie de réussir, d'aller vers le succès que tu pouvais avoir quand t'étais plus jeune, ou tu t'es un peu apaisé sur ce sujet-là?
Bah, je l'ai eu un petit peu, ce truc-là, mais non, vraiment, là je me bats, mais pas pour ça, quoi.
Ouais.
Je me bats pour faire aboutir des projets qui me tiennent à cœur, c'est tout, quoi.
Ok.
Et parce que je sais qu'au final, si on parle de succès, c'est la meilleure manière de leur donner une chance de rencontrer ce qu'on appelle le succès. C'est de les faire à fond, les faire bien, parce qu'on a envie de les faire. Et c'est tout, quoi. Donc, je me bats juste parce que tout ça demande du travail, et parce que tout ça est nourri d'envie, de passion. Mais c'est ça, mais c'est pas vraiment un combat, au fond. On se bat pour les trucs qu'on kiffe.
Oui.
C'est chouette comme boulot, quand
même. Oui.
Donc... Après, oui, après, on est dans le quotidien, donc on se bat parce que la vie continue et qu'il y a plein de choses à gérer en même temps. Donc c'est pour ça que ça devient un combat, mais sinon, en réalité, c'est pas du tout un effort. Mmh. C'est un plaisir fou et la lutte, c'est vraiment de pouvoir sélectionner, faire les bons choix, peut-être. Mais non, mais c'est certainement pas vraiment, sincèrement, pas pour le succès, quoi. Je fais les choses et puis bah, si ça plaît, si ça marche, c'est cool. Et bien sûr, je m'en nourris et je ne boude pas ou je ne nie pas le fait qu'il y ait des retours, qu'il y ait une preuve d'existence. Je préfère appeler ça une preuve d'existence. Il y a tellement d'artistes qui sont brillants dont on ne sait pas qu'ils sont là.
Ouais.
Tout comme moi, j'ignore des gens qui sont sur d'autres canaux qui ont pour le coup des millions de followers. Je ne sais pas qu'ils existent. Aujourd'hui, on vit dans des silos de toute façon.
Ouais.
Donc je suis dans mon petit silo. Je fais mon truc. Peut-être je me ferai happer par un mec qui va changer un paramètre dans un algorithme qui fera que je n'existerai plus. À moi de faire en sorte de sortir de ça au plus vite, comme un Fort Boyard. Sors.
Est-ce que, j'ai pas vérifié, mais est-ce que ton LinkedIn n'est pas loin d'être ton plus gros réseau social?
Ah, c'est mon plus gros réseau social.
Ça, rien
très
que ça, déjà, c'est ouf.
Je m'en suis rendu compte. Tu vois, j'avais pas regardé. Il y a un mec qui m'a dit, t'as 100 000 followers sur LinkedIn. Je savais pas. Et moi, pour moi, 100 000 sur Insta, par exemple, je trouve ça beaucoup.
Ouais.
Et moi, j'ai pas du tout ça sur Instagram. Et sur LinkedIn, oui, j'ai ça. C'est marrant.
Mais en même temps, c'est l'endroit où il faut que tu sois, quoi.
Oui. Mais j'ai mis du temps à l'assumer.
Malin.
Et un jour, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Un humoriste fait son LinkedIn out ». Et pour dire « Allez, ça y est, j'assume, tu vas avoir 40 ans, arrête de faire croire que ton truc, c'est... » À l'époque, c'était Snapchat ou TikTok. Arrête, assume, tu sais d'où tu viens, bah écoute, fais ce que tu sais faire et pas...
Et puis ça marche bien avec Y, en plus.
Ça marche bien, et tout ça était cohérent. Il y a une espèce de cohérence à un moment. C'est surtout ça, quoi. C'est peut-être le... Ouais, si on peut... Plutôt que parler de succès, on peut parler d'alignement des planètes et de ce qu'on est, ce qu'on veut être. C'est une forme d'apaisement, justement, et d'indifférence au succès, parce que c'est justement, on est calme. On est calme, quoi qu'il arrive. Et ça c'est cool. J'aime bien cet état.
T'as l'impression d'être dans cet état-là aujourd'hui? Calme, justement?
Ouais, je suis toujours un peu anxieux, stressé, une forme d'impatience aussi, mais certainement pas d'excitation face à un buzz ou face à,
ouais,
à quelque chose qui se passe. Tu vois, même l'Olympia, je suis content, bien sûr. Je suis très, très heureux et très fier de le faire et tout. Mais je suis pas là à dire ou à me dire c'est dingue, c'est génial. Je fais le boulot, bien sûr, de dire c'est cool, on était complet, chouette. Mais vraiment, je le fais à titre froidement professionnel, quoi. C'est sincère. Mais je suis pas là à m'émouvoir dès qu'il y a un article, dès que je suis mis en avant.
J'espère que tu vas kiffer le jour même quand même, parce que c'est quand même une
grosse
étape.
Je kiffe. Okay, je prends les choses comme elles viennent.
Okay.
Je kiffe. Non, mais ça m'empêche pas de kiffer. Mais je suis pas
cool
là dans.
Non, mais il y en a. Cocher des milestones.
Non, c'est cool, bien sûr. Mais vraiment, tu vois, au 1er janvier, on disait que te souhaiter. C'est vrai que c'est la première année où souvent on dit, je te souhaite de faire l'Olympia cette année. Mais cette année, c'était déjà signé, donc. Mais mon souhait, là, c'est que dans un an, le 31 décembre, je sois dans une cave en train de jouer un nouveau spectacle.
Ouais.
C'est ça, parce que c'est après l'Olympia, quoi. Il y a la suite, quoi.
Ouais.
Et la suite, et c'est ça qui est beau. C'est que l'Olympia, c'est bien, ça ponctue un travail, et puis après, voilà, on tourne la page et on y retourne. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue.
Avant de parler de la suite, j'ai envie de te parler de ce bouquin qui est, je crois, finalement, peut-être la prolongation de...
Ouais.
La prolongation de ton spectacle, non ?
Ouais, le petit précis de Culture Bullshit. Ça filme, là, c'est ça ? Si jamais on garde les images. Oui, le petit précis de Culture Bullshit, c'est mon premier livre. Enfin, un livre écrit par Jean-Bille Duval. Un certain Jean-Bille Duval. Avec
la participation
discrète de Karim Duval et la photo d'un mec qui me ressemble vaguement, quand même, sur la couve. Et, alors... C'est vraiment du Karim Duval comme tu peux voir sur les vidéos YouTube de ce fameux genre idéal que t'as envie de taper, quoi. C'est d'ailleurs Jean-Bille Duval est un des personnages dans Le Prof de Franglais. Et c'est là qu'est né le projet. Il est professeur de franglais et donc cette vidéo a beaucoup plu aux éditions Le Robert qui m'ont invité à participer à d'autres trucs et puis finalement de fil en aiguille on a fait ça. Et donc Jean-Bille Duval est professeur S bullshit. Et vraiment, il érige le bullshit, donc ce flou, ce vent qu'on brasse, notamment dans le milieu de l'entreprise, et ces dérives langagières. Et ben ça, il l'érige lui au rang de culture, au rang d'art, au rang de fondement civilisationnel, de patrie. Donc il y a une patrie avec ses héros, ses saints, ses coutumes, ses recettes de cuisine.
J'ai envie de te taper.
Je commence à prendre cette voix de mec qui s'écoute parler. Mais pense à moi quand je fais mes montages vidéo, oui, c'est horrible. Je me vois répéter la même prise, dite de manière plus ou moins suffisante. Et je choisis la plus horrible, c'est affreux, je dois écouter plusieurs fois les versions de chaque phrase. Ce livre a été une torture parce que je me suis mis dans la peau de ce mec-là. Mais c'est vrai que quand tu te mets dans la peau, tu parlais de pourquoi ces personnages, c'est vrai que être dans la peau d'un personnage, ça facilite aussi. Ça peut être soit une façon de cacher une forme de sincérité, mais aussi ça peut être aussi une façon de se mettre dans un délire, en fait. Et quand t'es dans ce délire-là, ça vient tout seul.
Ouais.
Donc quand tu te mets dans la peau de Jean-Bille Duval, j'ai écrit, je crois, 50 chroniques ou 60 chroniques en 2 mois, quoi.
Ça a été à toute vitesse.
Parce que ça va tout seul. C'est ta langue, là. T'es dans la peau de quelqu'un qui érige ça vraiment au rang de passion, quoi. Donc il en parle avec amour. On a l'impression de faire parler, je sais pas moi... Comme Stéphane Bern parle d'histoire, lui, il parle de réunions, de bullshit, de process. Avec beaucoup, beaucoup de passion.
Tu pourras venir quand tu vas dans les boîtes avec un petit
ouais,
carton.
C'est prévu.
Les boîtes vont t'acheter des tas d'exemples.
C'est un peu le livre de référence du libéral digital. C'est un peu le petit livre jaune, tu vois.
Putain, mais c'est vraiment...
Après, le petit livre rouge du communiste. Le petit livre jaune.
Oh là là, c'est une forme de cancer de notre capitalisme, en fait. Et en même temps, tu vois, je me rends compte que moi aussi, parfois, tu vois, en faisant mes podcasts, je fais un peu pareil. Je participe aussi à cette économie-là, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment... qu'est-ce que c'est ? En fait, il n'y a pas besoin de mes podcasts dans la vie, quoi, tu vois.
Non, mais dès que tu as mis un ongle dans cette économie-là, tu rencontres une forme d'incohérence. Mais ouais. Nous tous, moi-même, j'ai beau me moquer de ça, je nourris ce système-là, je pense. À part devenir moine... ou ermite, je sais pas, ou survivaliste.
Ou crémier fromager.
Même le crémier fromager. Alors, crémier fromager, j'attends de voir dans 5 ans comment il va être. À mon avis, il aurait créé 10 filiales.
Ouais.
Il n'aurait pas pu s'empêcher de faire un
site. Il en avait déjà une de plus.
Il en avait déjà une de plus. Et parce que, alors, ouais, c'est ce phénomène-là des reconversions, c'est marrant parce que c'est des gens qui ont le sens de la réussite et de la croissance. Ils ont été élevés avec la culture de la croissance. Et c'est normal quand t'es commerçant, finalement, t'as envie de.
Bah oui.
Mais c'est des gens qui t'arrêtent, tu vas avoir du mal à cantonner dans une forme de frugalité et de sobriété.
Ouais.
Il y aura forcément une envie de plus de,
ouais, c'est dur,
de développer une marque et de coller des concepts dessus, avoir du community management autour, chose que le fromager de base de ton village ne fait pas, quoi.
Bah oui.
Il n'y a pas de community manager, quoi. Il ne va pas recruter un alternant pour faire vivre sa page, quoi.
C'est peu. Et en même temps, j'ai grandi moi avec un mentor qui me disait en fait une boîte qui meurt pas est une boîte qui ne grandit pas est une boîte qui meurt, en fait, tu vois. Et en fait, je comprends pourquoi il me disait ça aussi, parce qu'il y avait un côté tu peux pas stagner, en fait, tu vois, c'est dur de stagner, c'est difficile.
C'est dur de stagner dans un monde qui croit, qui inflate
et qui croit en la croissance, en plus.
C'est-à-dire en la croissance qui croit.
Exactement. Il faut que tu passes par la croissance. Parlons de ton après. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu disais, ok, 40 ans maintenant, l'introspection, etc. Tu vas aller vers le spectacle de la maturité ou...
Ouais, c'est le troisième, on dit que oui, c'est le spectacle de la maturité. J'ai déjà commencé à écrire des choses que je teste en fin de spectacle. En tournée, là, je lis des trucs. Et ouais, j'ai vraiment envie d'aller vers un nouveau spectacle. Donc, ouais, de toute façon, c'est prévu. Il y a déjà des dates qui tombent.
Ah oui.
Je spécule sur un truc qui n'existe pas.
Mais c'est peut-être aussi une façon comme une autre de te forcer à écrire.
Moi, si j'ai pas d'échéance, c'est classique ça. Donc, oui, je me suis imposé des échéances déjà. Donc, ouais, je sais que je vais sortir un nouveau spectacle. Il y a le livre qui sort. Puis, je commence à avoir des envies d'écriture de fiction aussi.
Ok.
Je travaille sur un projet de. De scénario.
De ta série.
Non, j'ai pas ma série. Un projet de scénario de film.
Ouais.
Tout ça est contractuel et tout, donc c'est cool. Une comédie romantique.
Ok.
Sur fond de. Bon, je vais pas trop dévoiler, mais sur fond de. Des fois qu'un jour le film sortirait.
D'accord, pas.
Mais c'est une comédie romantique, donc voilà, avec des oppositions des milieux sociaux. Sur fond de French Tech et French Fab, tu vois.
Enfin, mon dieu.
Entre un ouvrier et une. Un artisan, ouvrier artisan et une CEO de start-up fait de l'IA, quoi. Et donc ces deux-là vont s'encontrer alors qu'à la base ils sont ennemis, ils vont tomber amoureux, donc ils vont être tiraillés entre défendre leur beefsteak ou s'aimer.
Très bon pitch. Bravo.
Voilà, donc je travaille là-dessus et forcément ça me fait zioter sur ce monde-là de la fiction, et donc ça me donne envie, donc j'ai plein d'idées toujours dans ma veine un peu autour du, et je mes vidéos me font provoquer des rencontres aussi avec des gens qui sont dans cette sphère-là et donc j'espère vraiment avoir me dégager du temps et réussir à faire des choix pour travailler à fond là-dessus, parce que c'est des trucs qui se font sur le temps long. Donc je crois qu'il faut semer plein de pistes, et donc vu que j'ai plein d'idées, ça tombe bien, et puis voir laquelle prend. Mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça, l'écriture, la fiction, j'aime bien, pourquoi pas écrire des romans ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me... moi j'aime vraiment ouais, dans 10 ans on verra si je fais encore de la scène, c'est bien, mais
Tu te dis que peut-être pas?
Ouais, peut-être pas. J'aime beaucoup la scène pourtant, mais si dans 10 ans, je sens que je vieillis mal.
Ah, ok.
ou que j'ai plus envie, j'aimerais bien que l'écriture me permette d'écrire, d'exister, faire exister mon travail autrement que par la scène, pourquoi pas. Mais non, pour l'instant, si, j'ai envie qu'il y ait un spectacle d'après à chaque fois. Je suis encore dans cette dynamique-là. Mais vraiment, si tu me disais vraiment, il faut que tu choisisses entre l'écriture ou la scène, à condition de faire exister ce que t'écris, je pense que je choisirais l'écriture. Quand même.
Ok.
À la mort dans la main, pourtant, parce que qu'est-ce que j'aime jouer et rencontrer le public, mais je crois que je préférerais écrire.
Écoutez, ça viendrait servir peut-être l'introverti, quoi.
Peut-être, c'est peut-être lui qui gagnerait au final.
C'est moi qui gagne. Écoute, Karim, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était très chouette. Donc, 7 juin 2023.
7 juin 2023.
L'Olympia,
ouais.
Boom.
Ah, il y a un truc aussi que j'aimerais bien mettre en avant, si je peux me permettre.
Juste après.
C'est pas la suite de ma vie, mais c'est la suite juste après l'Olympia. Le 14 juin, au Théâtre Libre, cette fois-ci. Et probablement à la télé aussi. Bon, c'est en train d'être mis en place. Mais pour la 3e édition, on va organiser un truc dont j'ai eu l'idée, qui s'appelle le Bacphilo des humoristes, et dont je serai MC. En gros, le principe, c'est quoi? C'est que le 14 juin, enfin le jour du bac philo des bacheliers de terminale, les sujets tombent le matin. Et donc, les humoristes que j'invite, mon line-up, découvrent les sujets comme tout le monde à travers la presse, des sujets de disserte de philo, ou le commentaire de texte d'ailleurs.
Si oui.
Et ils doivent écrire un truc drôle, un stand-up, un sketch, une chanson, ce qu'ils veulent, à interpréter le soir sans filet. Donc c'est un texte inédit pour traiter le sujet de manière humoristique devant 900 personnes et peut-être des millions de téléspectateurs.
Ah ouais, fou.
Et donc ce sera le 14 juin, et donc je crois que les places sont en vente ou bientôt, donc à surveiller.
Ok.
Et je suis très très content de porter ce projet-là, c'est vraiment cool, et c'est l'occasion de faire des trucs avec d'autres artistes. Moi, le solitaire.
Bah ouais, c'est trop bien. Et le 2 avril, donc t'as ce bouquin qui sort.
Le 6 avril. Ouais, le petit précis de Culture Bullshit sort le 6 avril. Et je suis content, je suis assez content de. Ouais, j'ai vraiment envie de le porter. Moi qui pas forcément. Je suis pas très fort en communication, j'ai vraiment envie d'en parler, quoi. J'ai mis du temps. Je suis assez content, c'est un bel objet que je découvre encore. J'ose pas le lire de bout en bout, j'ai peur.
Tu viens de le recevoir, là.
Le petit perfectionniste a peur d'aller trouver une coquille et dire oh réimprimer tout.
Il faut savoir lâcher prise.
Ouais. Non, j'aurais pas dit ça comme ça, c'est pas le bon mot.
Merci Karim.
Merci. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.